La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous, que ce soit derrière votre poste ou ici, dans ce Chez du Rouge de Malagar, la maison de famille de François Mauriac, devenue aujourd'hui un centre culturel, maison où nous nous trouvons pour une semaine consacrée à celui qui fut prix Nobel de littérature en 1952. La maison de François Mauriac où se tiennent en ce moment les vendanges de Malagar autour cette année du thème « Penser l'événement ». En écho au Mauriac éditorialiste, celui des bloc-notes dans l'Express et le Figaro, de cet aspect devenu majeur au fil du temps, nous parlerons mercredi au cours d'une émission dans laquelle il sera aussi question des liens chez lui entre religion et politique. Demain, c'est sur les grands thèmes abordés par Mauriac dans ses romans que nous nous pencherons. La famille, cette cellule si étouffante, mais aussi tellement aimée qu'il a décrite dans la plupart de ses livres, mais aussi la place des femmes dans la société et évidemment la question de l'amour. Jeudi, nous visiterons cette belle maison où nous nous trouvons et dont Mauriac a beaucoup parlé dans ses livres. Lui qui, même s'il repose en Seine-et-Oise depuis 1970, n'a eu qu'une seule région de cœur, celle des Landes et de la Gironde. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, comme chaque lundi, voici le panorama biographique. Mon invité est Philippe Baudor, il est professeur de lettres à l'Université de Bordeaux et vice-président du Centre François Mauriac. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
André Malraume m'a dit lui-même combien il était étonné de voir la place que l'enfance tenait dans une vie comme la mienne et que lui, m'a-t-il dit, détestait son enfance. Il y a des artistes, des écrivains qui ne prennent pas du tout leur inspiration dans leur enfance, n'est-ce pas ? D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne crois pas que ce soit très bon signe, n'est-ce pas, d'être prisonnier de son enfance comme moi et certains autres, nous le sommes. Je crois que c'est parce que nous n'avons pas su mûrir. C'est parce que nous ne sommes pas développés, vous comprenez, j'ai bien tort de dire cela, parce que c'est quand on a beaucoup d'ennemis, ce qui est mon cas, on leur fournit des armes. En effet, la plupart des gens qui disent du mal de nous racontent des choses qui ne sont pas vraies, et ils ne racontent pas ce qui est vrai. Enfin, si je voulais m'éreinter, je sais bien tout ce que je dirais, et je dirais justement ce que je vous dis en ce moment, c'est que j'ai le sentiment que je n'ai pas mûri, que je me suis fixé à une certaine époque. Vous comprenez ? Ce qui explique que j'ai été fixé sur l'enfance et que j'ai marché la tête tournée, vous comprenez ? Au risque d'être changé en statut de sel, vous savez. Je ne crois pas qu'on puisse s'en vanter, mais c'est un fait.
Bonjour Philippe Baudor. C'est une belle archive, vous ne trouvez pas ?
Magnifique, oui, magnifique.
Merci beaucoup d'être ici à Malagar pour parler de François Mauriac et pour entendre aussi des archives, parce qu'on va en écouter beaucoup cette semaine, et précisément parce qu'elles sont très belles. Et ce qui les rend peut-être particulièrement belles, celle-ci en tous les cas, c'est une sorte de fragilité. Une fragilité chez cet homme qui a eu tous les honneurs, qui a eu l'Académie française, il était académicien, qui a été prix Nobel. Et en même temps, une fragilité du fait qu'il revient toujours à son enfance, comme s'il n'avait jamais pu dépasser son enfance, Philippe Baudor. Comment est-ce que vous voyez ce François Mauriac là ?
Comme on l'entend là, c'est-à-dire avec énormément de justesse, de précision, mais également d'humour et d'ironie, parce que, bien évidemment, quand il se décrit prisonnier de son enfance et quand il dit comme une fatalité qui pèserait sur lui. Il est enfermé dans cette enfance. Il n'a pas mûri, dit-il. Il semblerait le regretter. Et en même temps, il sait très très bien que c'est aussi sa source, sa force, ce qui va le constituer. Donc, vous disiez faiblesse à propos de Mauriac. Oui, il a toujours joué de cette faiblesse, mais il a su faire de cette faiblesse une force. En tout cas, pour celle-ci, c'est très très bien de commencer par cette première archive, parce que c'est vrai que c'est une phrase et une expression qui revient souvent chez lui, être prisonnier de son enfance. Il dit « nous sommes quelques écrivains ». Alors il cite Malraux, puisque c'est l'exact opposé, celui qui n'a pas eu d'enfance, qui est l'écrivain adulte par définition. Mais comme Nerval ou comme Proust, dit-il, moi je suis resté prisonnier de mon enfance.
Vous dites qu'il a joué de son enfance, ça veut dire que en même temps qu'effectivement il était prisonnier, oui, de ces années-là, en même temps il aimait se représenter aux yeux des autres comme étant un enfant enfermé dans un corps d'adulte, puis même de vieillard.
Il a su tirer de cette source fabuleuse d'émotions, de sensations, de souvenirs, peut-être de sentiments, de tristesse, de blessures. Il a su en tirer quand même une grande partie de son œuvre. Donc c'est bien faire la preuve de tout ce qu'un écrivain, un artiste comme lui peut tirer comme force de cette faiblesse originelle, bien évidemment.
Alors fragilité, faiblesse, mais férocité aussi, parfois, c'est en tout cas l'image qu'il a, un homme qui sait donner quand il le faut des coups de griffe.
Oui, alors ça oui, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Là on bascule dans un autre registre, effectivement, de Mauriac. La férocité aussi, mais même chose, hein, quand il parle de sa férocité, il en parle parce qu'il a une conscience aiguë de cette aptitude qu'il a à être féroce, à blesser, à griffer, peut-être une aptitude et probablement un plaisir aussi. Et puis en même temps, il sait très très bien qu'il y a là derrière quelque chose de répréhensible, quelque chose qui n'est pas tout à fait acceptable, surtout pour un chrétien comme lui, hein, qui a fait vœu
de
charité, je dirais.
De la méchanceté,
donc
alors.
Il se retient aussi beaucoup, il se limite beaucoup, mais il y a toujours ces deux aspects. Il y a une ambivalence profonde et une conscience aiguë de cette ambivalence, et puis en même temps, une très grande intelligence pour en permanence jouer sur les deux registres. Je crois que ça aussi, c'est peut-être un point qu'on abordera.
Mais en tout cas, vous ne diriez pas qu'il est méchant, vous ?
Non, mais vous voyez, j'hésite un peu avant de répondre, mais je ne dirais pas qu'il est méchant parce que il n'y a pas forcément le désir systématique et profond de tuer, de blesser, de faire du mal. Mais il y a quand même une aptitude à la réponse, à la réplique, qui peut être cinglante, hein, qui l'est parfois, et qui est d'ailleurs une réplique qui va parfois un petit peu loin, parce que quand on écrit des chroniques et qu'on sait que ces chroniques vont être diffusées, on a le temps de se relire quand même, éventuellement de se reprendre. Alors on sait qu'il y en a quelques-unes qu'il n'a pas publiées, elles sont très très rares. On sait que sur d'autres, il a exprimé, hein, des regrets ou des repentirs, y compris par courrier ou par article, ensuite reprenant ce qu'il avait dit précédemment, ou tout simplement d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, puisque c'est surtout dans ses chroniques qu'il avait la dent dure. Il l'avait aussi en privé, mais disons que les paroles n'ont pas laissé les traces que les écrits ont pu laisser. Ensuite, il ne les a pas reprises toutes en volume, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu qu'elles passent toutes à la postérité, les vacheries dont il pouvait être coutumier ou gourmand, puisque vous évoquez cette gourmandise.
Donc quelqu'un qui réplique, mais qui n'attaque pas comme ça sans raison. Alors François Mauriac, il est né en 1885. C'était l'année de la mort de Victor Hugo. Il le notait d'ailleurs dans son journal d'un homme de 30 ans. Mmh. Il y a une importance de situer la naissance de cet écrivain, qu'on pourrait dire un peu à cheval quand même entre le 19e et le 20e siècle, le jour de la mort de Victor Hugo.
Oui, alors le jour de la mort de Victor Hugo, ou l'année de la mort de Victor Hugo, bon, c'est...
L'année.
Disons qu'il est à la charnière de deux siècles, comme toute une génération, cette génération de 85, qui effectivement va accéder à l'âge adulte, et pour lui ça sera extrêmement important au moment où la République sur un plan politique va se consolider, va se constituer, où un certain nombre d'orientations seront prises qui vont être des orientations qui vont beaucoup compter dans son développement intellectuel, dans son développement artistique aussi, même si sur ce plan-là il ne sera pas, je dirais, attiré par tout le renouvellement, hein, de l'art au XXe siècle, comme d'autres pourront l'être, même s'il sera toujours très très attentif à ce qui se passe autour de lui. En même temps, il naît quand même dans un milieu, dans un environnement qui reste relativement clos, hein, c'est-à-dire qu'il ne subit pas de plein fouet toutes les influences, notamment culturelles, artistiques, de ce basculement d'un siècle dans un autre. Donc la modernité, il la découvrira progressivement, il la découvrira relativement tard. Certains qu'elle jouera un rôle pour lui, comme pour tous les intellectuels et tous les artistes, bien évidemment. Mais disons que les choses se feront relativement progressivement. Son enfance est quand même une enfance, je dirais pas atemporelle, mais qui se déroule quand même dans un milieu qui vit à un autre rythme, hein, que le rythme qui pourrait être celui de l'histoire, hein, et de l'histoire culturelle.
Et puis c'est un enfant particulièrement couvé par sa mère. Il faut dire que c'est un enfant assez chétif, sa mère, dont il raconte dans son récit ce que je crois qu'elle était la vertu même.
Oui, la vertu même, donc c'est tout dire, hein, avec toujours, comme toutes les paroles de Mauriac, on peut les prendre un petit peu dans tous les ans, parce que c'est la vertu même, c'est un éloge et une admiration, il y a un amour chez lui pour sa mère qui est absolument incontestable. Et puis en même temps, la vertu mère, c'est la vertu même, ou la vertu mère, l'absus est significatif, ça peut aussi parfois s'avérer un petit peu pesant, et Dieu sait si dans l'œuvre de Mauriac, il y aura des mères qui s'avéreront un petit peu pesantes.
Mmh. Et une mère qui se croyait, qui se pensait comme étant chargée du destin de son fils. On voit là, Philippe Baudor, qu'on approche un petit peu de la psychologie, mais pourtant, François Mauriac considère qu'il est né dans un monde qui est un monde d'avant Freud, un monde qu'il est difficile de concevoir aujourd'hui, et dont on retrouve effectivement dans les romans cette particulière saveur.
Oui, la saveur, tout dépend le sens qu'on donne à ce mot de saveur, hein, parce que ça peut être une saveur un peu amère.
Exactement.
Aussi, hein, que cette éducation extrêmement rigide, extrêmement verrouillée, avec énormément de principes. Il est élevé, enfin c'est toujours ce qu'il raconte dans ses souvenirs, il y revient très très souvent, il dit qu'il a été forgé par cette éducation, qui est une éducation extrêmement, on va dire, castratrice, si vous voulez, puisque les interdits pèsent beaucoup et en grande partie sur la sexualité.
Alors, écoutons-le justement parler de sa mère.
Ma mère ne s'est jamais opposée à ma vocation. Elle ne m'a jamais brimé d'aucune manière. Je crois qu'elle a pu souffrir de mes livres. Elle est morte en 1929. J'avais donc écrit déjà plusieurs de mes romans. Je crois que j'ai rapporté ailleurs un mot d'elle qui en dit long. Elle m'a dit, mais je ne savais pas que tu avais été un enfant si malheureux. Et j'étais désolé de cette réflexion, parce qu'en fait, je n'avais pas été un enfant malheureux. Et si j'étais un enfant malheureux, ce n'était pas du tout du fait de ma mère, c'était du fait de ma nature.
Mais si vous avez été un enfant malheureux précisément, n'étiez-vous pas malheureux dans un sens tout à fait différent de celui que votre mère aurait pu concevoir?
Oui, bien sûr. Ma mère, il y avait des choses en moi que ma mère ne pouvait même pas imaginer, que dont moi-même, d'ailleurs enfant, avait très peu conscience. Mais la vérité, c'est que une femme seule, ma mère avait été veuve très jeune, n'est-ce pas, puisqu'elle avait, je crois, 33 ans quand son mari est mort, et qui a élevé 5 enfants, dont 4 garçons, je crois que ce serait d'une injustice absurde que de lui reprocher les erreurs qu'elle a commises et qu'elle ne pouvait pas ne pas commettre. Mais moi, je ne reproche absolument rien à ma mère, quoique je considère que mon éducation a été totalement absurde, mais elle ne pouvait pas ne pas l'être.
Oh.
François Mauriac, interrogé dans cette archive de 1952 par Jean Amrouche sur un air de Mireille, l'air de Mireille de Gounod. Vous savez pourquoi on a choisi cet extrait et sur cette musique-là, surtout, Philippe Bodor?
Pas Mireille, non, parce que je sais que sa mère chantait beaucoup.
Exactement.
On chantait beaucoup en famille et sa mère avait l'habitude de réunir la famille pour leur proposer un certain nombre d'airs. Elle aimait beaucoup Gounod, notamment, mais de mémoire, c'était plutôt un air du Saint-Mars qu'elle chantait, « Nuit resplendissante »,« Nuit silencieuse »,
etc. Et je crois qu'elle chantait également cet air
peut-être aussi cet air de Mireille.
Alors sa mère, nous a dit François Mauriac, lui a donné une éducation absurde. C'est quand même pas rien comme qualificatif, ce... absurde.
Oui, c'est assez abrupt, effectivement, l'absurde. Ça, c'est tout le Mauriac qui va revisiter son passé, on est en 52, donc qui se regarde enfant. Alors, l'archive était intéressante parce qu'on retrouve aussi toute cette ambiguïté, toute cette complexité, c'est-à-dire à la fois le rejet, la condamnation, et puis en même temps une sorte de grand attachement, comme s'il y avait là quelque chose de sacré, à quoi il ne faut pas toucher. Il y a une sorte de vénération absolue pour ce passé, pour cette figure maternelle. Bien sûr, éducation absurde, parce qu'il a bien conscience dans les années 50 combien cette éducation peut être datée, combien elle peut être dépassée. Cela étant dit, c'est pas forcément sur le chapitre de l'éducation, plutôt des jeunes filles, que Mauriac sera le plus progressiste dans son œuvre en général.
Donc il est finalement satisfait a posteriori de son
éducation.
Je dirais
qu'il ne se détachera pas forcément énormément de ses grands principes, puisque lui-même aussi souvent les revendiquera.
Ne s'occupera peut-être pas énormément d'ailleurs de sa famille.
Oui, bon, il n'est pas non plus si absent qu'on a pu le dire, mais il n'est peut-être pas aussi présent que ses enfants auraient pu le souhaiter. Mais en même temps, on a aussi dans l'archive cette idée que son enfance n'a pas été aussi triste qu'il a pu l'écrire. Et là, on voit bien tout le travail de reconstruction, de réécriture, de transformation, de métamorphose, de ce qu'a été le vécu et de ce que cela peut devenir dans les écrits de Mauriac. Et d'ailleurs, quand c'est des membres de sa famille qui lui écrivent ou sa mère lui écrit, ils sont étonnés de découvrir finalement une part de leur vie commune qui n'est pas la part de la vie commune dont ils avaient le souvenir ou dont ils avaient eu conscience de vivre. Et donc, alors ils s'excusent toujours en disant « mais je sais bien, on a beaucoup ri, on s'est amusé, il y avait beaucoup de joie, il y avait aussi beaucoup de légèreté dans cette enfance », même si ce qui ressort lorsqu'il revient sur ses propres souvenirs, c'est plutôt la noirceur et la tristesse, mais c'est en général ce qui se produit dans son œuvre, en général. Quand il écrit, c'est toujours, bien évidemment, de ce côté-là qu'il est attiré. Dans ses écrits de fiction, il l'est aussi dans ses écrits autobiographiques.
Alors, on peut terminer ce portrait de François Mauriac enfant et jeune adolescent par ce que son frère Jean-Pierre en disait. Musard artiste, se sachant, se voulant différent des autres, aussi brillant en société qu'il était exigeant et morose en famille, d'une sensibilité à fleur de peau que la moindre égratignure faisait frémir, ayant le don de vue perçante pour découvrir le ver dans le fruit avant même de l'ouvrir, et toujours la plume à la main, au fond très bon, ignorant la haine et sensible à la grandeur.
Oui, c'est un beau portrait, effectivement, d'un de ses frères, qui se connaissaient très bien. Les frères étaient très, très liés, étaient très proches. Ils avaient très peu de différence d'âge. Ils sont nés tous les trois à 3 ans d'intervalle. Donc, ils étaient très, très proches. Et ils sont restés toute leur vie très unis, malgré des différences de vue, d'orientation, de vie, d'engagement politique ou professionnel, bien évidemment. Mais ils sont restés aussi très, très proches. Ils se connaissaient très bien. Je trouve que le portrait est assez bien vu, même si c'est un portrait qui est peut-être dicté par le regard qu'un frère déjà mûr, je dirais, porte sur un tout petit François qui depuis a grandi et qui est devenu écrivain.
Et voilà.
Donc ça aide aussi à revisiter le passé quand on sait ce que ce passé a pu devenir.
Enfin, en tout cas, un adolescent plein de ferveur. Et en 1902, François Mauriac a 17 ans. C'est une année terrible pour lui car sa grand-mère Irma décède. Donc ça le choque non seulement parce qu'il perd un être aimé, mais surtout parce qu'il se rend compte que sa famille, qui est pourtant une famille bien sous tout rapport, catholique, pratiquante, eh bien sa famille se dispute l'héritage alors que sa grand-mère est encore agonisante. Et cette question de l'hypocrisie dans les familles va devenir un thème majeur de son œuvre. Donc il y a une espèce de rupture à ce moment-là entre ce milieu qu'on aime et qu'on va continuer à aimer, mais donc on commence à se rendre compte qu'il n'est pas exactement comme on croyait qu'il était.
Oui, c'est probablement une expérience qui n'a rien de personnel à François Mauriac. C'est une de ces expériences qui font qu'un enfant, un adolescent, petit à petit, devient adulte, c'est-à-dire que, confronté à un certain nombre de situations, notamment des situations tragiques, il voit les adultes réagir et finalement, il découvre progressivement ce qu'est la nature humaine, ce qu'il ignorait jusque-là, parce que sa famille, dans sa famille, il n'y a pas plus d'hypocrisie, il n'y a pas plus d'appât du gain, il n'y a pas plus, je dirais, de distance affective qu'il y en a ailleurs. Mais disons qu'à cette occasion-là, il voit peut-être les adultes sous leur vrai jour. Il y est souvent revenu. Il a dit que cet événement avait pu contribuer à l'éloigner de ce milieu bourgeois bien pensant dont il commence à douter de la sincérité des valeurs qui sont affichées, et le pharisaïsme qu'il va condamner par la suite prend peut-être sa source dans une de ces expériences-là, d'autant qu'il était très attaché aussi à sa grand-mère. En tout cas, très attaché, c'était une très forte femme, hein, qui ne suscitait peut-être pas une affection, une tendresse débordante, mais en tout cas qui a été très très présente dans son enfance. Et là, ça a été effectivement une rupture incontestable.
Alors vous dites, Philippe Bodor, que tout le monde fait cette expérience-là. Peut-être oui, mais on a quand même l'impression que chez François Mauriac, c'est plus présent qu'ailleurs, et également dans son rapport à cette ville près de laquelle nous nous trouvons. Malagar n'est pas exactement dans la banlieue de Bordeaux, mais disons à une quarantaine de minutes. Voilà, Bordeaux, c'est un autre leitmotiv de son œuvre, et c'est presque un personnage aussi chez François Mauriac. Et avec Bordeaux, eh bien, les rapports ne sont pas forcément toujours très faciles. Oui, un petit peu comme avec sa famille, on va à un moment donné prendre ses distances.
Comme avec son enfance, c'est ce qu'il évoquait au début. Nous sommes prisonniers de notre enfance, et pour lui, être prisonnier de son enfance, c'est quelque part être prisonnier de ce lieu aussi dans lequel son enfance s'est petit à petit formée, exprimée, même si l'enfance n'est pas marquée que par Bordeaux. Alors, vous avez raison quand vous dites qu'à un moment donné, il faut rompre, il faut couper les ponts, il faut partir, il faut fuir, ce qu'il fera. Mais n'empêche que, de même que l'enfance est toujours là, est toujours cette source vivante d'inspiration et d'émotion, de même, Bordeaux aussi. Mais pour cela, encore faut-il pouvoir s'en éloigner. Il y a une expression qui revient souvent sous sa plume et que je trouve très très frappante. Il utilise souvent le terme de flaque pour Bordeaux. C'est une flaque de passé ou une flaque d'enfance. Alors ça évoque effectivement une sorte d'eau dormante, croupie, une sorte d'espace un peu.
Non, ça évoque le miroir d'eau de la place de la Bourse qui allait quelques années plus tard être construit.
Il est beaucoup plus dynamique et énergisant, je dirais. La flaque, c'est plutôt quelque chose de très enfermant. Enfin, on retrouve bien cette image de prisonnier, mais autour de cette flaque, il va quand même énormément tourner et écrire d'ailleurs quelques-uns de ses plus beaux textes, hein, parce que Bordeaux, l'adolescence au commencement d'une vie, ce sont de magnifiques textes, mais ce sont quand même des textes d'une enfance et d'une enfance bordelaise profondément revisitée par un regard, une émotion et une écriture, c'est incontestable. Mais Bordeaux marque profondément la première partie de sa vie, hein, ça c'est clair, hein, c'est très très important, avec bien sûr Saint-Symphorien et un petit peu Malagar. Mais en même temps, une fois qu'il quitte Bordeaux en 1907, il tourne le dos et on peut quasiment dire qu'il ne reviendra pratiquement plus, hein, si ce n'est pour y revoir un petit peu sa famille ou sa mère quand elle est encore vivante, mais il ne reviendra plus. Plus à Bordeaux.
Il reviendra plutôt ici,
il reviendra
à
Malagar, hein, ou à Saint-Symphorien pendant un certain temps. Mais essentiellement à Malagar, quand il sera chez lui, surtout à Malagar.
Bordeaux, l'adolescence, oui. Vous citez ce livre où il revient, oui, sur ses années de jeunesse. On pourrait citer aussi Le jeune homme, oui, et La province. Oui. Trois essais tout de même, trois hymnes à la province. Oui. C'est quand même pas rien. Trois fois revenir sur ce sujet-là.
Oui, parce qu'il a été, si vous reprenez ces trois titres-là, il a été un jeune homme provincial et bordelais. Donc, revenant sur sa vie passée, je trouvais très intéressant dans la première archive cette image de la statue de sel, cette image du regard en arrière, cette image finalement de ce qu'on tire derrière soi et sur quoi on ne doit pas se retourner. La littérature moderne, c'est beaucoup structurée autour de ce mythe. Dieu sait si beaucoup ont écrit autour de ce mythe-là. Mais c'est vrai que pour lui, écrire, c'est quand même toujours regarder un petit peu dans le rétroviseur, c'est toujours écrire en regardant ce qu'il y a derrière soi, et il est tout à fait normal, donc, y compris dans ses essais, il revienne. Vous avez d'ailleurs noté que ce sont des essais autobiographiques en partie, mais qui ne sont que des fragments, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de cette évocation plus ou moins directe de lui-même, mais il y tournera sans vraiment franchir le pas, je dirais, puisqu'il n'y aura pas de souvenirs, d'autobiographies construites, écrites par Mauriac lui-même.
Parce que Mauriac est peut-être toujours dans son œuvre.
Parce qu'il est dans son œuvre, parce qu'il se méfie beaucoup de tout ce qui pourrait se revendiquer comme étant une sorte de confession directe à laquelle il ne croit pas. Mais en même temps, il y a quand même ce besoin de revenir sur lui et sur ce passé-là. Mais toujours de façon indirecte et fragmentée, très éclatée.
Alors, 1919, Philippe Baudor, c'est le premier livre publié de François Mauriac. Il s'appelle « Les mains jointes ».
1909.
Oh, pardon, 1909. C'est un recueil de poèmes d'un jeune homme qui a quitté Bordeaux, qui est allé s'installer à Paris, précisément pour couper un petit peu avec ses origines. Et il est remarqué, à ce moment-là, assez rapidement, pas de manière très large, mais tout de même par quelqu'un qui est important à l'époque, et c'est Maurice Barrès.
Oui, alors c'est vrai que bon, c'est un peu l'acte fondateur. Je dirais que quand on raconte la vie d'un écrivain, quand on évoque son parcours, on a souvent besoin d'une sorte de geste fort, qui est un geste de reconnaissance. Finalement, il est adoubé, il reçoit les insignes, et cette reconnaissance lui vient de celui qui est véritablement son maître à l'époque, mais qui est le maître de toute une génération, qui est Maurice Barrès, qui exerce sur les esprits un pouvoir, une emprise extrêmement forte, que beaucoup d'écrivains par la suite ont reconnu et que Mauriac ne démentira jamais. Il restera toujours marqué par Barrès, donc c'est pour lui à la fois une chance extraordinaire. Et puis en même temps, même si dans un parcours biographique, c'est tout à fait une référence facile parce que ça permet de marquer une sorte de terminus acquo, si vous voulez, de point de départ, en même temps, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une entrée aussi fracassante que ça dans le monde des lettres parce qu'elle ne sera pas suivie d'un succès, d'une reconnaissance. Il faudra qu'il attende assez longtemps encore pour vraiment entrer dans le monde des lettres. C'est peut-être une sorte de fausse entrée, mais en tout cas, elle est tout à fait intéressante pour marquer un point de départ.
En tous les cas, Mauriac doit se confronter à la vie parisienne et oui, il doit aussi se confronter à ce qu'il devient progressivement intérieurement sur le plan sentimental. Et il découvre ce qui va être l'un des thèmes les plus importants de son œuvre, c'est-à-dire le désert de l'amour.
Lorsque l'on aime l'être qui vous aime, n'est-ce pas ? Je veux dire qu'il y a correspondance parfaite. Même dans ces cas-là, et je crois que c'est ce que tous mes personnages enseigneraient, même dans ces cas-là, le désert de l'amour continue de régner. Parce que il y a une perpétuelle angoisse de savoir s'il n'y a pas fléchissement, s'il n'y a pas d'interruption. Enfin, vous savez, c'est ce que Proust appelait les intermittences du cœur. Une chose... C'est un vers de Madame de Noailles que j'ai souvent cité et qui exprime le mieux ce que mes personnages, au fond, ressentent à propos de l'amour. C'est ce vers, vous savez, la paix qui m'envahit quand c'est vous qui souffrez. C'est-à-dire, pour être en paix, il faut que l'autre souffre. Parce que la souffrance de l'autre est la seule preuve qui vous rassure et qui vous prouve que vous êtes aimé. Je crois que ce vers, quand je l'ai lu, je me rappelle de Madame de Noailles, m'avait tellement éclairé sur mon propre comportement et sur celui aussi de mes personnages.
Il faut toujours l'écouter entre les lignes aussi, Philippe Baudor, François Mauriac, et quand il parle du désert de l'amour, il ne parle pas évidemment de sa femme, il ne parle sans doute pas de ses enfants, mais il parle peut-être de ce garçon qu'il a rencontré en arrivant à Paris et pour qui il a cultivé un amour qui n'a pas été partagé. Ce garçon, c'était Bernard Barbet, un écrivain et diplomate suisse dont Jean-Luc Barré, le biographe de Mauriac, indique que ces lettres sont, nous explique-t-il, sans équivoque.
Oui, alors il ne rencontre pas Bernard Barbet quand il arrive à Paris, il le rencontrera plus tard dans les années 20. Mais il rencontre d'autres jeunes hommes en arrivant à Paris, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que, à propos de cet amour, il ne s'agisse que de ça, parce que cet amour qui est évoqué est très fortement évoqué par Mauriac dans cette archive. C'est un amour qui peut s'appliquer aussi à la relation qu'on peut avoir avec les membres de sa famille. On l'a vu avec sa mère tout à l'heure. C'est un amour qui peut aussi s'appliquer avec, bien sûr, son épouse, hein, parce que je crois que l'histoire d'amour qu'il y a entre François Mauriac et son épouse est une véritable histoire d'amour aussi. Bien sûr, chaque histoire d'amour a sa singularité, a sa particularité. Chacune est unique à sa façon et complexe à décrypter, à analyser. Et puis il y a tous ces amours ou toutes ces amours impossibles ou interdites que Mauriac a pu vivre, et il en a vécu beaucoup, hein, parce que des coups de cœur, il en a eu énormément dans sa vie. Alors il y a celui que vous citez et qui va rester effectivement brûlant, hein, pendant une grande partie de sa vie, puisqu'il va continuer à correspondre avec Bernard Barbet très tard. Hein. Barbet a une œuvre, Barbet a une carrière, Barbet se marie, donc il continuera à correspondre avec lui, il restera proche de lui. Mais je dirais que jusqu'à la fin de sa vie, Mauriac aura un cœur brûlant et un cœur très prompt à s'enflammer. Donc l'amour chez lui, c'est une expérience vécue, profondément vécue, et je dirais vécue avec à la fois toutes les difficultés, toute la puissance du désir d'amour, et puis en même temps aussi avec en permanence la conscience du chrétien.
Et le péché de chair aussi, toujours présent.
Alors, bien sûr,
présent.
Parce qu'il y a l'interdit, parce qu'il y a le péché, parce qu'il y a... mais aussi parce que le chrétien vit d'amour aussi. Hein, et donc, il n'y a pas que dans sa foi, il n'y a pas que l'interdit et le péché, il y a aussi l'amour.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et au mi-temps de cette émission, Philippe Baudeur, nous retrouvons un autre écrivain. Alors, pas vraiment de la région, celui-là, quoique pas très loin non plus. Éric Fotorino, bonjour.
Bonjour.
Vous, c'est La Rochelle, hein, votre port d'attache. Mais maintenant,
oui.
Tout ça, c'est la même chose. C'est la grande région Nouvelle-Aquitaine.
C'est vrai, mais les 10 premières années de ma vie étaient dans le Bordeaux de Mauriac.
Donc, vous êtes le régional de l'étape, voilà. Vous aussi. Et vous êtes directeur de l'hebdomadaire Le 1, les auditeurs le savent, on va parler de votre sommaire, mais avant cela, il faut quand même signaler votre lien à François Mauriac, puisque vous avez présidé jusqu'à il y a peu, en fait, le centre François Mauriac de Malagar, c'est-à-dire ici. Quel est votre rapport à ce grand écrivain ?
Écoutez, c'est très curieux parce que j'ai lu Mauriac comme un grand frère, sans connaître bien toute son histoire, comme évidemment la connaît si bien Philippe Baudeur. Mais c'est vrai qu'il y a des phrases de Mauriac qui m'ont traversé, je dirais presque transpercé. Alors, je vais pas bien les citer, mais je me souviens de cette phrase sur Bordeaux où on lui disait « Chaque rue de Bordeaux est barrée par un chagrin d'enfance ». Et il y avait chez Mauriac cette souffrance, quelquefois des petites humiliations de l'enfance, mais on leur donne évidemment des proportions considérables quand on est enfant. Et ce Bordeaux noir, ce Bordeaux des quais, ce Bordeaux avec des gens riches, bourgeois, les chartrons et puis les petites gens, on voit bien la différence et lui, je crois, l'a vécu fortement. Et moi, j'ai vécu dans un Bordeaux comme ça qui n'était pas aussi étincelant qu'on le voit à présent. Et donc, les romans de Mauriac avec effectivement le péché, avec le tourment, avec l'amour incandescent, les amours impossibles, le remords, etc. Et puis les landes, les bois, ce côté un peu oppressant, l'appât du gain de certains personnages, les sentiments un peu bas comme ça, c'est tellement bien écrit. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que on ne lise pas assez Mauriac. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que Grasset, qui est son éditeur, réédite vraiment une œuvre, pas une pléiade, puisque c'est Gallimard. Et pourquoi pas, il y en a une déjà, pléiade de Gallimard.
Il y en a eu
Gallimard,
en plusieurs tomes.
Des tomes beaucoup plus accessibles, je dirais, qu'une pléiade, moins intimidants qu'une pléiade. Ce serait formidable parce qu'il y a des textes merveilleux. Une petite anecdote, quand j'étais journaliste au Monde, je me souviens d'une année où j'ai fait un voyage au Japon et je lisais Thérèse d'Esquerou et dans le filet d'un train plutôt qui m'emmenait de Tokyo à Kyoto, j'ai oublié ce livre. Et je me suis toujours demandé ce que ce Thérèse d'Esquerou perdu entre Tokyo et Kyoto était devenu. Et peut-être que des Japonais curieux ont essayé de déchiffrer, de décortiquer l'âme humaine de Mauriac et de Thérèse.
Éric Fautorino qui fait du book crossing. Alors je ne sais pas si dans le 1, où il y a souvent de la littérature, liée toujours à l'actualité, vous avez déjà inséré des textes de François Mauriac. En tous les cas, de la littérature, de la poésie, on en trouve dans le un en kiosque actuellement et qui porte sur le thème de l'éducation.
Oui, c'est vrai que c'est le mois de septembre, vous allez me dire c'est un marronnier, mais c'est vrai, c'est profs qui font bouger l'école. Alors la littérature et la poésie, on lui a donné évidemment une grande place cette semaine, en particulier avec Jacques Prévert. Prévert, on a publié un poème qui s'appelle « L'enseignement libre » et je pense qu'il aurait fait sourire ou peut-être lever un sourcil à François Mauriac. Dans ce poème, il dit en entendant parler d'une société sans classe, l'enfant rêve d'un monde buissonnier. Et c'est ainsi, avec une bienveillante indifférence, qu'il sourit lorsque le professeur de Vive la France lui apprend qu'il est le dernier, et quand le même éducateur lui prêche son grand crédit credo, l'enfant ne comprend pas un prêtre mot, et à toutes ses homélies mélo. Et ça se termine. « Pourquoi aurais-je honte, dit l'enfant, ne m'avez-vous pas dit vous-même, et il n'y a pas si longtemps, les derniers seront les premiers. »
Philippe Baudeur, vous pensez qu'il aimait Jacques Prévert? C'est pas sûr.
Je ne sais pas si j'ai pas souvenir de Mauriac était un grand lecteur de Prévert. Il y a peut-être des traces par-ci par-là.
Un peu trop moderne.
Je ne sais pas. J'ai pas de mémoire en tout cas d'un jugement porté par Mauriac sur Prévert. Faudrait chercher dans l'ensemble. Il a tellement lu qu'il a peut-être ça, mais enfin, c'est quand même à la marge.
Éric, autre chose.
Oui, on les imagine pas trop ensemble. Voilà. Et puis le prêtre mot, je ne comprends pas. Un prêtre mot, peut-être que
ça,
Mauriac.
Oui, ça l'aurait fait sourire. Oui.
Voilà. On a évidemment écrivain, vous le disiez, Mathieu. Eh bien, c'est Brigitte Giraud, cet écrivain qui a écrit notamment ce livre J'apprends et puis La Chambre des parents, qui dans un texte très très beau raconte, vous savez, ces prix que les lycéens organisent en faisant venir des écrivains, en lisant leurs romans avant. On dit souvent les jeunes ne lisent pas. Eh bien, elle raconte une expérience près de Lyon où 5 écrivains ont vu leur livre roman sélectionné et ils ont été lus par des classes entières de tous horizons, des classes de restauration, des classes professionnelles comme des classes plus littéraires. Et ça a donné lieu à une fête, une soirée avec des pièces de théâtre, des chants, des œuvres comme ça de jeunes inspirés de ces romans. Et donc ce texte est très stimulant parce qu'on voit que tout n'est pas perdu et heureusement lorsqu'il s'agit de transmettre à la fois des savoirs et des émotions par la littérature.
Voilà, tout cela et bien plus encore, j'imagine, Éric.
Voilà, et puis après, comme on est sérieux au 1, eh bien, il y a un certain nombre d'enseignants qui racontent leurs expériences de professeurs d'éducation de transmission. C'est la bienveillance, c'est comment on note ou comment on ne note pas, etc.
Rendez-vous aux auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus en kiosque pour dénicher le 1. Compagnie des auteurs sur France Culture et aujourd'hui c'est le premier jour d'une semaine consacrée à François Mauriac, ce grand écrivain couvert d'honneur, comme il l'admettait d'ailleurs facilement.
En fait, je n'ai pas eu de stratégie ni de lutte à soutenir parce que les circonstances ont fait que les choses me sont arrivées en quelque sorte sans lutte. Vous me direz peut-être que cela venait de certains arrangements obscurément très adroit de ma vie, mais en tout cas, par exemple, prenons, si vous voulez, l'Académie française, eh bien, l'Académie française, vous savez que j'ai été élu au moment où j'avais eu de la grave maladie à laquelle je dois la voix qu'entendent en ce moment mes auditeurs à la suite d'une opération très sérieuse en 1933, et que, en somme, j'ai eu ce qui s'appelle une élection maréchale parce que parce que, disons le mot brutalement, on croyait que je n'en avais peut-être pas pour très longtemps, et enfin, voilà.
Vous croyez que c'est vraiment la raison ?
Enfin, je ne veux pas... c'est en tout cas la raison de ce que... C'est la raison qui a fait que je n'ai pas eu d'échec, et que j'ai été élu à la quasi-unanimité de mes confrères, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a donc pas eu de ma part la moindre... Le moindre effort, la moindre démarche, ni pour cela, ni pour rien. D'ailleurs, vous comprenez, j'ai été, si vous voulez, un enfant très gâté.
Nouvelle archive de ces fameux entretiens avec Jean Amrouche qui date de 1952 et dans lequel on entend un Mauriac qui ne se cache pas derrière une sorte de fausse modestie. Il n'est pas contre les honneurs. Et au fond, il le dit.
Oui, il dit qu'il n'est pas contre les honneurs. Il dit plus, là, il dit qu'il n'a rien fait pour les recevoir. Je n'avais aucune stratégie, j'étais un enfant gâté. Mais il le dit avec un tel ton, une telle distance qu'on perçoit son ironie. Et quand Mauriac nous dit « je n'avais aucune stratégie », finalement, ce qu'il nous donne à comprendre, c'est qu'il en avait une. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a travaillé pour y arriver ? C'est-à-dire qu'il a quand même été en littérature un bourreau de travail. Il a écrit dans les journaux, il a écrit des romans, il a écrit des essais.
Parce qu'il adorait ça aussi.
Il adorait ça, mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui avait un objectif. C'est quelqu'un qui avait une ambition, c'est quelqu'un qui souhaitait être reconnu. Alors évidemment, avec le recul, il va évoquer cette période, la période de sa gloire, c'est-à-dire ce qui va se dérouler en gros entre le début des années 20 et la fin des années 30, avec une certaine ironie.
Oui. Il dit justement, dans ses nouveaux mémoires intérieures, j'aime beaucoup cette phrase, qu'il était à l'époque plus pavoisé qu'une montgolfière.
C'est ça, je montais au zénith de la littérature plus pavoisé qu'une montgolfière, dit-il, comme si, voilà. Bon, mais en même temps, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour cela. Il y a énormément de traces, y compris dans sa correspondance, parce que les entretiens sont extrêmement intéressants. Encore une fois, Mauriac a cette intelligence dans la voix qui nous invite toujours à lire derrière ce qu'il dit. Et ça, c'est tout à fait passionnant quand on l'écoute. Quand on le lit, c'est un petit peu la même chose. Quand on lit sa correspondance, et ça, c'est très, très intéressant, puisque vous avez intitulé cette première émission « Mauriac tel qu'en lui-même ». Alors, dans sa correspondance, on le découvre un petit peu plus tel qu'en lui-même. Pour citer un petit exemple, lorsque Rivière lui demande d'écrire un article sur Bourget en 23 dans la NRF, Mauriac lui dit « un article sur Bourget, c'est peut-être pas très habile pour ma stratégie, pour moi-même, je risque d'être un petit peu méchant, être méchant à l'égard de Bourget, ça va pas me faire trop de bien ». Il lui dit « réservez-moi un article nécrologique, mais là je préfère ne pas faire ». Et puis il ajoute aussitôt « alors vous allez me trouver quand même un petit peu stratège, un petit peu manœuvrier, mais qu'est-ce que vous voulez ? Bon, on en est tous là ». Donc là, on le voit tel qu'il est, ensuite il peut prendre ce recul, c'est-à-dire l'Académie, évidemment, c'était un rêve. C'était un rêve. Alors, comme il dit, j'ai eu une élection de maréchal. C'est vrai que ça a bien basculé. Il s'est quand même présenté plusieurs fois. Il y avait une sorte d'opposition et de verrou à l'Académie, parce qu'il y avait des académiciens qui ne voulaient pas le recevoir pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas. Et puis, ça s'est déverrouillé. Finalement, comme il dit, j'ai une élection de maréchal. Il a même dit, il ne manquait qu'une voix, la mienne.
Mais parce qu'il était sur son lit d'hôpital.
Parce qu'il était sur son lit d'hôpital, il avait des soutiens à l'Académie. Il y avait des soutiens, il y avait Valérie, il y avait Bergson. Il y avait quand même des soutiens qui étaient très forts pour lui. Et je dirais que ceux qui étaient plutôt opposés à son élection, petit à petit, se sont rangés à la majorité.
Mais tout de même, cette année 1932, donc élection à l'Académie, lui est malade et opéré. C'est une césure dans sa vie. On pense toujours à François Mauriac avec cette voix-là, mais il n'avait pas pendant la moitié de sa vie cette voix-là. Il a quand même failli mourir. Oui. Qu'est-ce que ça change chez lui ? Est-ce qu'il y a un avant et un après pour François Mauriac ?
Alors en tout cas, il va beaucoup jouer de cette spécificité, de cette singularité-là. Il y reviendra beaucoup, il en parlera beaucoup. Il en fera presque une forme d'atout de coquetterie, comme il revient beaucoup sur lorsqu'il était enfant, il avait été blessé à l'œil, donc on l'appelait Coco Bel-Œil, etc.
C'était peut-être la seule fois où il avait joué avec des enfants de son âge
ça,
et
donc,
il s'était fait mal.
Et puis on l'y a plus repris. Donc il a toujours eu tendance à insister sur ce côté souffreteux, sur ce côté un petit peu maladif, sur ce côté fragile, etc., comme je vous le disais. Mais encore une fois, rien de plus fort que ceux qui jouent en permanence de leur faiblesse et qui en jouent comme lui, avec énormément d'intelligence.
Et alors cette maladie, il dit qu'il est étonné de l'avoir traversé sans cri. En fait, il est peut-être plus courageux, finalement, qu'il ne le croit lui-même, François Mauriac.
Oui, sans cri, mais avec énormément d'inquiétude, hein, parce que c'est vrai que c'était une maladie grave, hein, un cancer du larynx. Il a été opéré très tôt, heureusement pour lui. Donc, ablation d'une corde vocale, d'où cette voix, dont il va faire ensuite, je dirais, bon, on pourra peut-être y revenir, mais vraiment une posture, hein, puisque ensuite, les archives que vous citez, c'est toute l'époque de la grande gloire radiophonique, je dirais, de nombreux écrivains d'ailleurs, hein, parce que il y a vraiment toute une grande histoire des écrivains de la radio à cette époque-là. Et Mauriac, évidemment, bon, il n'y a pas la télévision, mais à la radio, il va beaucoup jouer de cette voix-là, et ça va le poser au fond. C'est-à-dire la posture de Mauriac, elle va se faire autour de sa voix, je dirais beaucoup plus que de son image, hein, puisqu'on n'est pas encore dans la sphère de l'audiovisuel. Donc ça va être une marque pour lui, un signe de reconnaissance, une identité extrêmement forte.
Et on le comprend en entendant ces archives qui sont de fait extraordinaires parce qu'elles ont de vrai, finalement. On a vraiment l'impression que Mauriac nous parle à nous. Alors c'est peut-être aussi Amrouche qui interroge au fond très bien, arrive à accoucher finalement très bien François Mauriac, mais on a quand même là une vraie personnalité.
C'est-à-dire
dans ces archives.
Je trouve qu'il y a une virtuosité extraordinaire en les écoutant, parce qu'il arrive à jouer de sa voix comme d'un instrument particulier, et il arrive à adopter cette tessiture très singulière qui est la sienne, à tout le discours qu'il développe, ce discours, comme vous disiez, toujours un petit peu entre deux, mi-plaisantant, mi-sérieux, etc. Et sa voix lui permet d'être dans cet entre-deux. Et je trouve qu'il y a vraiment un tout qui est extrêmement convaincant, en tout cas, qui est une très très belle réussite.
Alors pendant sa maladie, ce qu'il faisait en rentrant de l'hôpital où il subissait les rayons, c'était de mettre sur le pick-up un disque de Mozart.
Oui. Oui, il va. Alors, comme vous le savez, la musique a beaucoup compté dans sa vie. Il se disait lui-même, il reprend très très souvent cette expression qu'il était un illettré de la musique, parce que contrairement à certains écrivains qui jouaient, qui lisaient les partitions, lui est totalement inculte en termes de musique, mais grand amateur, amateur de concerts, amateur de festivals. Et découvre
Salzbourg, surtout.
Salzbourg, après la découverte justement de Mozart, grâce au pick-up de ce jeune prêtre Cléieux qui va effectivement lui apporter ce pick-up, lui faire découvrir Mozart. Il le dit d'ailleurs, il découvre Mozart à ce moment terrible de sa vie, on l'évoquait, c'était ce cancer, donc un moment crucial, d'une très grande inquiétude pour lui. Et il découvre Mozart, dit-il, adulte, hein, c'est-à-dire qu'il est, à ce moment-là, il a presque 50 ans quand il fait cette découverte. Donc il a découvert, je dirais, la musique de l'enfant prodige, la musique qui garde en elle la plus précieuse part de l'enfance, alors qu'il était adulte. Et je dirais qu'il ne s'en remettrait pas. Mozart va rester pour lui plus qu'un musicien. Je dirais qu'il y a les musiciens pour lui et il y a Mozart. C'est vraiment autre chose.
Il dira même dans son bloc-notes de 1956 qu'il a cru entendre derrière les dernières œuvres du musicien ce qu'il a appelé le reproche à Dieu, c'est-à-dire le scandale d'un enfant perdu au milieu d'une humanité sans entrailles et qui se demande pourquoi il est venu.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est existentiel son rapport à Mozart.
Oui, c'est comme Mozart, c'est ce cri pur, c'est ce cri de l'enfance, c'est ce qui reste dans l'univers adulte, la part préservée de l'enfance.
Ce que je puis vous dire en effet, c'est qu'il y a eu une rencontre dans ma vie entre ces événements du Maroc qui faisaient partie de tout ce qui allait se passer en Indochine et puis en Algérie, le commencement, il faut bien le dire, de la torture, le commencement d'une époque affreuse où le pays des droits de l'homme s'est trouvé représenté, le pays de l'abus de l'homme et de sa destruction. Eh bien, cette prise de conscience que j'ai ressenti en moi-même, naturellement, mais que je dois aussi à beaucoup d'interventions de jeunes catholiques.
De Robert Barra.
En particulier de Robert Barra, oui, avec qui je suis entré en contact et qui me faisait un peu honte, enfin, de cette sorte de retrait, enfin, car une seconde fois, comme après la guerre de 14, eh bien, une seconde fois, de nouveau, je m'étais attablé, si vous voulez. Il y a eu donc cet événement. Ces événements du Maroc qui ont agi sur moi et ces jeunes catholiques. Et puis alors, il y a eu à ce moment-là le prix Nobel. J'ai été un peu accablé
par ce Nobel. Je ne l'ai pas refusé comme Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? Parce que il n'y a que les athées pour être à ce point désintéressés, n'est-ce pas? Mais enfin, j'ai tout de même été très troublé.
J'ai tout de même été très troublé par le Nobel, dit François Mauriac, le catholique pour qui peut-être trop de réussite temporelle risque de fermer les portes du paradis, Philippe Bodor. C'est peut-être ça qui le trouble en fait.
Non, n'allons pas jusque-là. Trop de réussite temporelle. Non, alors il l'a souvent dit à propos de Claudel, il a dit Claudel, là-haut il aura toutes les récompenses, alors même si quelques-unes lui échappent ici-bas, c'est pas grave, il se rattrapera. Lui a été très très heureux de les recevoir. On évoquait l'Académie française, il est évident que la deuxième reconnaissance, et celle-là, je pense, extrêmement importante pour le rayonnement de l'œuvre de Mauriac dans le monde, c'est le prix Nobel, hein, parce que si Mauriac est lu encore aujourd'hui en Asie, en Amérique latine...
C'est pas uniquement parce que vous semez des livres dans les trains au Japon, c'est aussi parce qu'il a eu le prix Nobel.
Non, ça ne suffirait pas, hein, mais le Nobel a eu un retentissement très très fort. Et d'ailleurs, le Nobel a eu un retentissement très fort sur son rayonnement international, mais il est aussi la preuve d'un début de rayonnement international avant qu'il l'ait eu. Hein. Ça, il en a conscience aussi, notamment dans le monde anglo-saxon. Il rend hommage, d'ailleurs, dans son discours à Graham Greene, hein, qui a été son traducteur en anglais. Donc là, le Nobel a été très, très important sur le plan de la notoriété de l'écrivain. Mais là, vous avez choisi une archive très, très intéressante parce que, comme il l'a souvent fait dans ses souvenirs, dans ses mémoires politiques, il lie directement le prix Nobel aux événements du Maroc. Et l'engagement fort du Mauriac âgé, je dirais, de la fin de la vie de Mauriac, on entre là dans les années 50, c'est effectivement le Maroc, hein, qui est parfois un peu moins connu que l'Algérie, parce que le Maroc a laissé peut-être moins de traces dans les représentations collectives nationales. Mais pour lui, son véritable engagement, ce sont les événements du Maroc pendant ces années 53-54.
Il est même probable qu'il n'aurait pas eu le prix Nobel s'il n'y avait pas eu cet engagement dans le bloc-notes sur le Maroc et sur l'Algérie.
Alors,
on récompense l'écrivain, mais enfin, on récompense aussi l'éditorialiste.
Alors, pas tout à fait, parce que la justification, hein, puisque le prix Nobel s'accompagne d'un discours qui exprime les raisons pour lesquelles le Nobel a été attribué, repose essentiellement sur l'universalité de l'œuvre romanesque de Mauriac. Il n'est pas question dans ses justifications de son œuvre de journaliste. Et lorsqu'il arrive à Stockholm pour recevoir son prix, il l'a souvent raconté, c'est en descendant du train que l'attaché d'ambassade, faisant la grise mine, lui dit « il y a eu des événements grave à Casablanca, il en est informé, et pour lui, une sorte de rencontre, de coïncidence troublante entre cet extraordinaire honneur qui lui est fait, et puis en même temps ce qu'il découvre de la souffrance de certains, et donc il le reconstruit ainsi, mais en même temps son engagement prouve qu'il y a bien eu de ça, il y a la nécessité de mettre cet honneur au service de ceux qui souffrent et qui en ont besoin.
1952-1970, c'est l'année de la mort de oui. François Mauriac, ça fait 18 années post-prix Nobel, qui lui donne le temps d'utiliser finalement ce poids devenu plus important sur la scène littéraire française et internationale. Il meurt à 85 ans, le 1er septembre 1970, après avoir mené cette seconde carrière de journaliste d'humeur, voire de pamphlétaire, sans parler des mémoires intérieures, merveille, qu'il a appelé merveille de son grand âge, Philippe Bodor.
Oui, alors cette période 50 à 70, c'est vrai que c'est l'âge d'or du journalisme mauriacien. N'oublions tout de même pas que journaliste il a été toute sa vie, c'est-à-dire que nous qui numérisons et qui mettons à disposition du plus grand public la totalité de ses textes de presse, ici au Centre Mauriac de l'Université de Bordeaux-Montaigne, nous faisons remonter nos textes et nos archives à 1910. Avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a une activité de journaliste aussi très très importante chez Mauriac. Bon, elle est très riche, elle est en même temps associée à son œuvre de créateur, mais les années que vous citez, 52, puis 54 avec le premier bloc-notes à l'Express, et puis 70 avec le dernier bloc-notes, cette fois-ci au Figaro. C'est vraiment une période qui va profondément marquer les esprits et garder, bien évidemment, l'héritage le plus proche de nous, en tout cas, du Mauriac journaliste.
Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur la vie de François Mauriac et nous allons nous y employer toute cette semaine dans la compagnie des auteurs. Merci beaucoup à vous, Philippe Baudor, pour ce premier panorama. Avant de nous quitter, je vous propose d'entendre quelques minutes de poésie choisies pour nous, comme chaque jour, par Jacques Bonafé.
Bonjour. Cette nouvelle semaine, nous allons la passer avec Eugène Guivic. Et si le poème était une bougie qui se consumerait sans jamais s'épuiser? Nous allons dérouler toute la semaine les premières pages de Art poétique publié chez Gallimard Poche et dédié à Jean de La Fontaine. Si je n'écris pas ce matin, je n'en saurai pas davantage. Je ne saurai rien de ce que je peux être. Si j'écris, c'est, disons, pour ouvrir une porte. Le plus curieux, j'ignore à quel moment se fait cette ouverture. D'ailleurs, ce qui se lève, c'est peut-être un rideau. Quand j'écris, c'est comme si les choses, toutes, pas seulement celles dont j'écris, venaient vers moi, et l'on dirait, et je crois, que c'est pour se connaître. Lorsque j'écris nuage, le mot nuage, c'est qu'il se passe quelque chose avec le nuage, qu'entre nous deux se tisse un lien, que pour nous réunir, il y a une histoire. Et quand l'histoire est finie, le roman s'écrit dans le poème. Voici une chenille, elle rampe. Elle rampe vers de la nourriture, c'est du moins ce qu'elle croit. Et d'ailleurs c'est vrai, mais aussi elle rampe vers son avatar, vers sa vie de papillon. Et cet objectif, elle ne le devine pas. Toi, tu ne devines pas encore vers quoi tu écris. Apparemment, tu ne fais pas de gestes. Tu es assis là, sans bouger, tu regardes n'importe quoi. Mais en toi, il y a des mouvements qui tendent dans une espèce de sphère à saisir, à pénétrer, à donner corps à je ne sais quel flottement qui peu à peu deviennent des mots, des bouts de phrases. Un rythme s'y met et tu acquiers un bien. Dans la plaine, un arbre se détache sur le ciel. Heureusement, car je m'y accroche. Je le constate et je me demande si plutôt qu'à l'arbre, ce n'est pas aux mots que je m'accroche. Par exemple ici, au mot noyé qui le désigne. J'ai l'habitude de me considérer comme vivant avec les racines, principalement celles des chênes. Comme elles, je creuse dans le noir et j'en ramène de quoi offrir du travail à la lumière. Guivic est breton, originaire de Carnac. Les menhirs de Carnac sont autant de poèmes que le ciel et le vent cherchent à se dédier.
De Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé, pour clore, comme chaque jour, notre compagnie des auteurs. Un grand merci à vous, Philippe Baudor, pour ce très riche survol de la vie de François Mauriac. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou sur le site internet de France Culture et nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi bien sûr Facebook. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet. À la technique, il y avait aujourd'hui Alexandre James et Hervé Dubreuil. Merci à Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Merci également pour leur accueil au centre François Mauriac de Malagar. Demain, c'est au grand thème mauriacien que nous nous intéresserons. Nous serons en compagnie de Jacques Montferrier, Pierre-Luigi Pinelli et Caroline Casville. Dans un instant, les sciences sur France Culture avec Nicolas Martin.